Bonsoir. On entend bien là? En tout cas, c'est juste pour. Alors, bon, je me présente, je m'appelle donc Jonathan Vetman. Le Rav Moshe m'a demandé de participer ce soir sur un thème qui n'était pas a priori un thème sur lequel j'ai beaucoup travaillé. Donc, j'ai quand même tenté de le ramener sur un terrain où je suis plus familier. Parce que je n'ai pas la compétence d'être moré à l'Acha. Donc, c'est pour ça que je vais faire attention de ne pas non plus donner de l'Acha ce soir. Pour ne pas dire de choses qui peuvent être fausses, d'autant plus qu'il y a à côté de moi le Maradéatra, et j'oserais pas dire de bêtises. Alors j'ai proposé d'aller sur un thème qui m'est familier, puisque j'ai collaboré avec mon Rav, qui est le Rav Weingart, que vous connaissez peut-être, qui donne beaucoup de shiurim sur le droit juif et le droit civil, avec lequel on a réalisé des ouvrages, et notamment un des ouvrages qui sera à la rentrée, qui est un de ses livres phares, qui est un livre sur le ribbit, sur lequel j'ai trouvé un cas intéressant dans lequel je pourrais donc traiter ce soir. Et le Rav Weingart est un disciple du Rav Weinberg, le Sri Deesh, qui était un gaon de la moitié de ce siècle, qui était d'ailleurs le chef du séminaire rabbinique de Berlin, et qui après la guerre, ayant perdu toute sa famille, s'est retrouvé à Montreux. Et ce soir j'ai justement trouvé une lettre de lui qui était tout à fait dans le sujet. J'ai eu cette chance de la trouver, ce qui a changé totalement le cours de mon propos ce soir. Alors, le thème de ce soir, en fait, il y en a deux. Et on m'a dit Dina de Malchut Adina et les relations entre le Bnei Noach et Israël. Alors, a priori, au départ, je n'ai pas tellement vu le lien, parce que Dina de Malchut Adina, c'est tout simplement pas Israël et les nations, mais c'est Israël chez les nations. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe lorsque le peuple d'Israël n'est pas chez lui, mais il est chez les autres peuples, et puis qu'il y a une autre loi qui vient se substituer, ou en tout cas recouvrir, eh bien, la loi d'Israël. Puisque lorsqu'on est sur notre terre, on a une loi, on a une halakha, et cette halakha, elle embrasse toutes nos relations avec Dieu, mais aussi avec les hommes. Puisque la loi juive a cette particularité d'embrasser absolument le tout. Pourtant, lorsqu'on se trouve en dehors de notre pays, en galoute, eh bien, il y a ce qu'on appelle le Mishpat Ameler, c'est-à-dire la loi du roi, qui peut, sous certains aspects, s'opposer à notre loi, ou à d'autres, eh bien, faire perdre un petit peu la face de notre loi d'Israël. Et c'est cette lacune qui pourrait exister, c'est-à-dire le fait qu'on ne puisse pas appliquer notre loi en dehors des restes d'Israël, et qu'on se trouve sous les lois d'un pays, par exemple en France, qui fait qu'on a dû mettre en place le mécanisme de Dina de Malchut Adina, c'est-à-dire la loi du roi, c'est-à-dire la loi du royaume, où est-ce que l'on vit. D'un autre côté, le sujet disait aussi la relation entre Israël et le Bnei Noach. Et là, c'est plus Israël chez les nations, mais c'est Israël avec les nations. C'est-à-dire comment on se comporte avec eux. Alors évidemment, on se comporte avec eux chez eux. C'est-à-dire, c'est mélangé, Israël avec les nations, chez les nations. Mais enfin, il y a un troisième thème, c'est le rapport avec le travail. Alors heureusement, mon ami Jean-David, que j'ai eu au téléphone hier, me disait, mais nous, quand on a pensé à ce sujet, on a pensé à un sujet brûlant, qui était, mais qu'est-ce que tu fais de toute ça à la chotte, où c'est écrit que, bah, si on lit les textes, il faut pratiquement voler le goy. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé de respecter avec lui les lois du commerce, tu n'es pas vraiment obligé de faire achever ta Veda, c'est-à-dire de ramener les objets perdus, et puis bon, tu n'es pas franchement obligé d'être très droit avec lui. Et ce sont des thèmes qui choquent, parce qu'effectivement, ils sont écrits dans nos sources, ils sont écrits dans le Talmud, alors ils pourraient croire que le peuple d'Israël est un peuple antisémite. Alors j'ai décidé donc ce soir d'axer la réflexion de la manière suivante. C'est-à-dire d'abord d'essayer d'imaginer en fait à qui est destinée la Torah, est-ce qu'elle est destinée aux Juifs ou bien est-ce qu'elle est destinée aux nations, et puis de vous faire une étude particulière de ces trois problèmes, c'est-à-dire le problème effectivement de la Shevet Aveda, le problème du respect des poids et des mesures avec les goy, ou le fait que s'il y a par exemple une erreur sur les comptes, est-ce que je suis obligé de rendre les comptes alors qu'avec le juge je suis obligé, et puis enfin un troisième point, qui est un point que je connais un peu plus, c'est le problème du ribbit, c'est le problème criant et difficile, que selon certaines personnes, vous savez, selon tout le monde, pardon, il est strictement interdit de prêter à mon frère juif avec intérêt, parce que comme le dit Rashi, c'est comme la morsure d'un serpent, au début on ne la sent pas et puis ça gonfle, hein. C'est comme les crédits CTLM, au début on rembourse 30 euros, 40 euros, puis on ne comprend pas, ça monte à 200, 300, 400, ou même quand on rembourse une maison, on l'a remboursé 3 ou 4 fois, et donc Rashi le décrit très joliment comme la morsure d'un serpent, qui au début ne fait aucune douleur et qui à la fin fait exploser, et donc mon interdiction que j'ai de prêter à mon frère juif, et d'un autre côté, quelque part, une mitzvah, en tout cas telle que ça apparaît, de prêter au goy avec intérêt. Quoi ? Je suis obligé de prêter avec intérêt avec le goy, et si je veux lui prêter sans intérêt ? Alors je vous rassure, il n'y en a qu'un qui l'oblige, c'est le Rambam. Le Rambam dit que c'est une mitzvah de prêter au goy avec intérêt. Les autres sont un petit peu plus coulants. Bon. Alors, et je terminerai ensuite par une lettre merveilleuse qui a été écrite par le Rav Weinberg en 1913 et qui était donc à l'aube de l'antisémitisme en Allemagne, puisqu'il a vécu en Allemagne. Il a remplacé le Rav Hildesheimer, qui était juste après Rabbi Simchon Raphaël Hirsch, là-bas en Allemagne, à Berlin. Et donc le Rav Weinberg répondait à une lettre que j'ai ici sous mes yeux, dans laquelle effectivement les antisémites, et les plus grands antisémites sont en général les juifs, vous savez c'est quoi la différence entre un goy et un goy gamour, c'est qu'il n'y a qu'un goy gamour qui peut être juif, c'est qu'un vrai, il y a les vrais goy c'est forcément des juifs, et donc ce que des juifs ont su lire, chez nous, parce qu'il faut avoir su lire le Talmud pour pouvoir nous critiquer, et donc on relevait dans nos sources les endroits antisémites et les ont utilisés à notre rencontre. Et le Rav Weinberg reprend ces éléments, et je voudrais vous présenter ce soir sa lecture. Au moins, ce ne sera pas moi qui vais m'engager, mais c'est l'engagement d'un Gadol B'Israël qui dit des choses, et ça me permettra de dire quelque chose qui n'est pas un sentiment personnel, mais qui est quelque chose qui est donné par un Gaon Balacha. Voilà un petit peu la démarche que je voudrais vous apporter ce soir. Alors, je voudrais d'abord commencer par cette première étape, d'expliquer effectivement à qui s'adresse la Torah, parce que c'est important. Si elle s'adresse qu'aux juifs et pas à l'homme, alors c'est un problème, parce qu'effectivement, on n'est pas obligé forcément, nous, de se comporter avec les autres hommes, qui ne sont pas des juifs, de se comporter avec eux de la même manière qu'on se comporte avec nos frères. Alors, la première réflexion, c'est une réflexion du Maharal de Prague, que j'ai trouvée très jolie. Le Maharal de Prague remarque que les deux fois où est-ce qu'on parle de révélation, c'est quand ? C'est au moment du Har Sinaï et au moment de Shavuot, mais il n'y a que des goyes. Ouais, parce qu'au moment du Har Sinaï, c'est qui ? On parle de Yitro. C'est Yitro qui était présent. Et qu'est-ce qu'on lit le jour de Shavuot ? La Megillat Ruth. Yitro et Ruth de Goy. Et si vous avez bien remarqué, Yitro et Ruth, c'est un anagramme. Parce que Yitro et Ruth sont faits des mêmes lettres. Enfin, deux Goy qui auront plus la même racine, mais en tout cas ont quelque chose en commun. Et donc ça veut dire qu'au moment le plus élevé du judaïsme, au moment où est-ce que le judaïsme se révèle, qui est-ce qui est présent ? Eh bien, ce sont deux Goy. Ça veut forcément dire que la Torah s'adresse pas seulement à l'homme, mais qui s'adresse pas seulement aux juifs, mais alors c'est vrai, il s'adresse aussi aux juifs, parce qu'il y a beaucoup de juifs qui ne veulent pas l'écouter, mais il s'adresse pas seulement aux juifs, mais il s'adresse à l'homme. C'est vrai que c'est le juif qui porte la Torah en tant que peuple élu, c'est pas le peuple élite, c'est le peuple élu, c'est-à-dire c'est lui qui est l'éclaireur, c'est lui qui est le Ham Nifra. Manitou avait une jolie façon d'expliquer la notion de peuple élu. Il disait, il rapportait la fameuse règle herméneutique d'Avar chez Yatsa Minaklal, Lo Leatzmo Yatsa, et là, Alakal Klo Yatsa. C'est-à-dire que une chose qui, par exemple, sort d'une règle générale, eh bien, c'est pas pour elle, mais c'est pour la règle générale. Le cas le plus courant, c'est la Hevet Aveda. Hein, c'est que quand on perd quelque chose, le verset dit ainsi tu feras pour l'habit, ainsi tu feras pour son vénin, etc. Et la Torah elle dit ouais, mais je comprends pas, l'habit fait partie de toutes les trouvailles, tu feras de tout ce qui est perdu. Eh bien, c'est pour nous dire que de même que l'habit a de particulier qu'il a des signes distinctifs, en tout cas à l'époque il en avait, plus maintenant parce qu'on peut acheter des habits qui sont tout le monde. Alors là, donc la règle générale de l'invention, c'est-à-dire lorsqu'on doit rendre un objet qui est perdu, eh bien, il se base sur la règle de l'habit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un signe distinctif. Bien, c'est de la même manière, le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a été relevé des autres peuples, un petit peu comme quand un cuisinier, quand il veut goûter une soupe, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend la louche, il met la louche dans la soupe et il la goûte. Ouais. Ce qui l'intéresse, c'est pas ce qu'il y a dans la louche, parce qu'il va servir aux employés, ce qui va servir aux clients, c'est ce qu'il y a dans la marmite. Ouais. Donc d'avoir chez Yatsaminaklal, l'olélamed alatsmouyatsa. Il n'a pas pris la louche pour savoir quel était le goût de la louche, mais savoir qu'est-ce qui va servir aux invités. C'est en ce sens où le peuple d'Israël, il est le peuple élu, c'est qu'il est sorti des autres peuples, n'est-ce pas, pour pouvoir montrer quel est le chemin aux autres peuples. Mais en réalité, la Torah s'adresse véritablement à tous les peuples. Et ça va même plus fort, puisque lorsque Moshe a fait sortir les bénis d'Israël d'Égypte, vous savez qu'il y a eu le Erev Rav. Erev Rav, qui est tous ces peuples qui se sont mixés à nous et qui ont eu qui ont un petit peu à la source de tous nos maux, parce que c'est le Erev Rav qui a été le responsable du Egel Azav, du veau d'or, puisqu'ils nous auraient effectivement convaincus par leurs mœurs de faire le Egel Azav. Et quelque part, même Akadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe d'avoir sorti ce peuple. Bon, le Erev Rav, c'était tous ces gens qui étaient avec les peuples juifs en Égypte, qui n'étaient pas des juifs, n'est-ce pas, et qui ont participé au miracle qui était de sortir d'Égypte et qui sont venus avec nous. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, Moshe, il le savait que le Rebrav allait venir avec nous. Et volontairement, il le savait. Donc, il y a bien une raison. Il faut expliquer. Parce que même Akadosh Baruch Hu, il reproche à Moshe, personnellement, d'avoir, que ce peuple, c'est ton peuple, oui, avec le Rebrav qui est présent. C'est bien donc que Moshe, quelque part, était conscient. C'est donc que le peuple d'Israël, pardon, c'est donc que Moshe était véritablement au courant que le Rebrav était avec lui. C'était pas une nouveauté pour lui. Et donc, quelque part, il faut l'expliquer. Et dire que pour Moshe, il fallait absolument que la Torah ait une portée universelle. Il fallait que les autres peuples viennent avec nous y participer. Bien qu'effectivement, ils allaient se passer ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'à cause de ces peuples qui sont mélangés avec nous, eh bien, il y a eu des fautes catastrophiques, eh bien, il les a quand même fait participer. Mais quel était le problème du Rebrav finalement? Le problème du Rebrav, c'est qu'ils sont directement sortis d'Égypte et ils ont reçu la Torah sans passer par Bereshit. Si vous préférez, nous, le peuple juif, on a une histoire. On a d'abord reçu la Torah, on a connu l'histoire de Bereshit, ensuite on a eu l'histoire de l'esclavage, on porte toute une histoire derrière nous. Or le Rebrav, il est directement rentré en action. Il est sorti d'Égypte, il est arrivé au Harsinaï. Il n'a pas eu, si vous préférez, la préface. La préface, c'est Bereshit. Ouais. D'ailleurs, c'est intéressant, on dit Derecheret Kadma la Torah. Kadma, c'est Agdama. Kadma, c'est on dit Derecheret Kadma la Torah. Derecheret, c'est les règles de. Je ne veux pas dire les règles de politesse, mais les règles de bonne conduite. On dit que la bonne conduite, eh ben, elle précède la Torah. Quelque part, c'est avant même de pouvoir faire la Torah, il faut savoir se comporter. Donc les règles de bon comportement, eh ben, précèdent la Torah. Et Derecheret Kadma la Torah, c'est-à-dire que la préface, c'est celle qui explique comment va se comporter la Torah. Et c'est quoi la préface? C'est Bereshit. Bereshit, c'est le livre qui préface tout le reste de la Torah. Pourquoi? C'est là où il y a les avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov. De chacun, on apprend une mida. Le chesed, le din, on apprend chacun. La gvura, on apprend de chacun. On apprend quelque chose. Avraham, avec sa capacité, son chesed. Et puis, Arnasat Ochim, sa capacité de recevoir les invités, quels qu'ils soient, même les étrangers, puisqu'il reçoit les trois arabes, enfin les trois anges, mais les trois arabes. Et donc, le Bereshit, c'est vraiment le livre d'introduction qui va expliquer comment le peuple juif doit se comporter. D'ailleurs, vous savez qu'un auteur qui écrit un livre, il n'écrit pas la préface au début, il écrit à la fin. C'est-à-dire qu'il écrit d'abord tout son livre, et une fois qu'il a fini d'écrire tout son livre, il écrit la préface. C'est bien la preuve que la préface, elle est là finalement pour éclairer le reste du livre. Celui qui lit la préface va comprendre l'auteur, le fil directeur de l'auteur, où est-ce qu'il voulait aller. Et finalement, la Torah, eh bien, c'est la Bereshit, c'est ce qui a manqué au Erevrav. Et quelque part, le Vaudor, c'est un manque de Recheret. Parce que qu'est-ce qui mène au Vaudor? C'est tout ce qui est bien sûr les problèmes de Giloy Arayot, problèmes de relations interdites, de Shfichut Damim, etc. C'est-à-dire tous ces éléments qui n'existaient pas à l'époque. J'avais entendu une fois le Rav Shenzal dire une chose très jolie, qui expliquait le mot Lifnei Har Sinai, quand les peuples juifs étaient donc avant le Har Sinai, c'est pas qu'ils étaient devant le Har Sinai, mais à une époque pré-sinaïque, si je peux me permettre. Moi, je me suis fait comme ça cette idée que si vous voulez savoir c'était quoi la vie avant la Torah, allez en Afrique, vous verrez c'est quoi une vie avant une loi. C'est quoi une vie avant des règles aussi simples, qui paraissent aussi simples que de ne pas tuer son prochain ou de ne pas voler? Il y a des gens pour lesquels eh bien, c'est quelque chose qui est loin d'être simple, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, à l'époque d'avant la Torah, eh bien, il n'y avait pas toutes ces lois-là. Et si tu veux savoir quel est le sens de toute la Torah, quel est le sens de toutes les mitzvot, tu dois passer par Bereshit. Hein. Un petit peu comme quelque part, problème sans vouloir faire de discrimination, quelqu'un qui est Baal Tshuva, on reproche souvent au Baal Tshuva de faire des erreurs. Oui, parce qu'il n'est pas passé par la case départ. Et c'est pour ça que tout le travail du Baal Tshuva, c'est de passer par la case départ, de faire le réapprentissage, non pas de la connaissance, mais de la vie juive, et de réintégrer le tout. C'est un long processus auquel il est invité, mais auquel c'est un des travers auxquels il est confronté et qu'il doit dépasser. Les Avdil, avec le Rebrav. Et donc, cette idée de, comment dire, de Derecheret Kadma la Torah, qui n'est pas de moi, qui est du Hirsch, du Rav Shoshan Raphaël Hirsch, c'est vraiment l'idée que, comment dire, que Bereshit, c'est le livre qui s'adresse à l'homme, c'est le livre général, même quelque part avant que la Torah soit donnée. C'est intéressant, c'est qu'avant que la Torah soit donnée, on a déjà ces règles de base, avant même des 613 mitzvot, qui sont les lois qui sont données dans le Sefer de Bereshit. Et le Hirsch, d'ailleurs, au même endroit, remarque de manière intéressante que Avraham, lorsqu'il a fait la Mila à la fin de l'Ech Lecha, quel a été son premier geste religieux? Il n'a pas été au Kotel pour prier, il n'a pas été prié avec beaucoup de ferveur à Kadosh Baruch Hu, il n'a pas jeûné pendant 10 jours. La première chose qu'a fait Avraham une fois qu'on lui a fait la Mila, c'est qu'il a fait Arnasat Ochim, c'est-à-dire qu'il a reçu des invités. Il a reçu les trois arabes et les trois anges. C'est intéressant que la Torah elle-même nous ait montré que quelque part, être juif, c'est être un homme à part entière, d'accord? Et le Hirsch le dit comme ça en hébreu, il dit « Yadut ze enoshiut mushlemet ». Hein, le premier élément du judaïsme, n'est-ce pas, c'est d'être un homme entier. Je ne voudrais pas avoir le discours de dire il faut être droit avant d'être religieux. Hein, il faut être les deux. Et donc l'idée même qui apparaît ici, c'est qu'on a une obligation, nous les juifs, en même temps que nos mitzvot, eh bien, d'être un peuple droit et d'être des hommes droits. Le Rav Weinberg lui-même disait par rapport à cette idée même que l'homme doit être droit, que vous savez qu'il y a une Gemara dans Sota qui raconte qu'Abraham il recevait, vous savez comment est-ce qu'Abraham il convertissait les païens qui étaient avec lui? C'est une Gemara dans Sota qui dit qu'en fait il les invitait à manger. Et alors quoi? Et quand il les invitait à manger, eh bien les païens, ils disaient à Abraham, merci beaucoup. Il disait, mais c'est pas moi que vous devez dire merci, c'est au maître qui est aux cieux. Et le Rav Weinberg remarque justement, il dit, mais comment tu peux les convaincre? En fait, qu'est-ce que fait Abraham? Il fait un changement d'adresse postale. Il dit, c'est pas moi, c'est lui. Mais lui, vous le connaissez pas. Les types qui venaient manger chez lui, les païens, Dieu, ils connaissaient pas. Comme qui dirait Pharaon, c'est écrit dans aucun annuaire de Dieu. Donc ça veut dire, je comprends pas tellement comment le Rav Weinberg dit, il comprend pas tellement comment est-ce qu'Abraham pouvait convaincre en disant, c'est pas moi, c'est lui, mais lui était un inconnu. Ouais. Alors, finalement, l'idée est simple, je pense, c'est une idée assez reçu chez nous, c'est qu'Abraham c'était le symbole même du chesed, ouais, c'était le symbole même de la capacité à recevoir avec amour. Et certainement c'est un homme qui, plus que par les actes que par la parole, était capable de convaincre. Ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que certainement les gens qui venaient chez lui en voyant Abraham pouvaient voir Dieu. Ouais. Et de quelle manière? Eh bien, la manière qui se passait, c'est que puisque Abraham était relié à Dieu et que Dieu est relié aux hommes, alors Abraham était relié aux hommes de cette manière-là. C'était quelque chose d'assez fondamental, cette capacité effectivement de voir Abraham être proche de toutes les nations. Alors, en ayant donc balayé cette idée donc finalement que la Torah elle est donnée aux Juifs bien sûr, mais qu'elle est aussi donnée à tous les hommes, ben, il n'est pas possible d'envisager que la Torah elle ait pu être aussi, si je peux me permettre, aussi raciste de manière aussi forte telle qu'on a pu le décrire au début de la, comment dire, de cette réflexion. Il faut forcément creuser un peu plus et essayer de voir ce qui peut se passer. Alors je voudrais apporter un cas ce soir, un cas que je vais creuser de manière plus approfondie, parce que c'est un cas que je connais assez bien. C'est le problème du prêt à intérêt. Alors, le problème du prêt à intérêt, et on va le voir, moi je vous le dis tout de suite, c'est assez scandaleux, mais c'est une mitzvah de prêter au goy avec intérêt. Ou en tout cas, pour le Rambam, mais pour d'autres, on peut prêter avec intérêt avec un non-juif. Alors, c'est scandaleux parce que c'est écrit clairement, aux juifs, tu n'as pas le droit de prêter à intérêt. Au goy, tu peux prêter avec intérêt. C'est écrit ici. Le voilà. L'otachir l'achicha nesher kesef nesher, d'accord ? L'enochi tachir ou l'achicha l'otachir. C'est-à-dire qu'au juif, tu ne pourras pas lui demander ni d'usure ni d'intérêt, mais au non-juif, tu peux. C'est écrit, alors, l'enochi tachir, c'est toute la question de savoir est-ce que tu dois ou tu peux. Alors, encore une fois, le Rambam, c'est tu dois, les autres, c'est tu peux. Alors, évidemment, ça fait bondir des gens. Quoi ? Pourquoi est-ce que pour le juif, il y aura un état privilégié et pourquoi est-ce que pour les goïms, il y aurait une obligation ? Alors, pour expliquer ça, il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est que le prêt intérêt, et ça c'est quelque chose de fondamental. Le prêt intérêt tel qu'il est écrit dans Vayikra, c'est que c'est la chose suivante, c'est vechi amour achicha, c'est si ton frère en vient à s'appauvrir, ou matayado imar, et qui te tend la main, vechezak tabo, d'accord, ger vetoshav vacha imar, tu devras le relever et vivre avec lui. Altikach miton esher vetarbit, tu ne prendras pas de ton frère, évidemment, il a besoin d'argent. Donc tu ne vas pas profiter de sa pauvreté pour pouvoir encore plus l'appauvrir, parce qu'on a compris que quand on paye les intérêts, on paye non seulement le capital, mais 10 fois le capital, enfin n fois le capital, d'accord. Veyareta melokecha, vechay achicha imach, et ton frère vivra avec toi. Ça, ce sont les psukim de base qui finalement interdisent dans Vayikra et dans Dvarim, en tout cas interdisent le prêt intérêt aux juifs et le permettent aux non-juifs. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intérêt pour pouvoir comprendre d'où ça vient? Eh bien, l'intérêt, c'est quelque chose de très simple, c'est ce qu'on appelle, c'est un loyer. Un loyer pour le temps. C'est quoi un loyer pour le temps? C'est que si moi, je vous prête de l'argent, eh bien, vous allez pouvoir obtenir maintenant ce que vous auriez dû obtenir plus tard. Donc, en vous donnant cet argent-là, je vous fais acheter du temps. Et ce que je vous propose, c'est de me payer un loyer pour le temps que je vous fais gagner. Parce que cet argent-là, je ne le fais pas fructifier pendant ce temps-là. Et donc, vous achetez le temps que cet argent n'est pas en ma possession, et là, j'ai une compensation, si vous préférez, pour la non-utilisation ou le fait que je ne vais pas faire fructuer mon argent pendant ce temps-là. Donc c'est un loyer, un intérêt, qu'on appelle l'intérêt en français, mais c'est un loyer qui est payé par le débiteur, d'accord, dont le créancier, n'est-ce pas, eh bien, attend le remboursement de sa dette plus tard, et entre-temps, il a un loyer dessus. Ce que dit la Gemara, il dit Amar Rav Nachman, Klala de Ribita, Kol Agar Netarle, Asur. Et la règle du ribit, c'est quoi? C'est l'interdiction de toute rémunération du délai. Donc on l'a vu, la rémunération de l'attente, la rémunération du temps, rémunération de mon attente en tant que créancier, puisque j'ai passé d'argent pendant ce temps-là, eh bien j'ai une rémunération, elle est interdite. Donc le ribit défini par Rav Nachman, et la chose suivante, c'est l'interdiction de la rémunération du délai. Alors, le problème qui se pose ici est de savoir, effectivement, eh bien, pourquoi il y aurait une différence, n'est-ce pas, faite entre l'intérêt fait aux juifs et l'intérêt fait aux non-juifs. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une différence entre les deux? Alors, je vous rapporte la réflexion que j'ai menée donc, avec mon maître, ou que mon maître a menée, et que j'ai suivie avec lui. Eh bien, la règle est la suivante. D'abord, il faut imaginer une chose. Alors, je vous rapporte plusieurs avis, des avis qui, des fois, paraissent un peu réformés, si je peux me permettre, dont le Torah Tmima, qui sont des avis un petit peu modernes de ce côté-là. Le premier avis, c'est du Rav Lutzato, qui est un rabbin du 19e siècle, et qui explique que l'autorisation qu'on a de prêter à un non-juif, avec intérêt, eh bien, c'est parce que en Israël, à l'époque, eh bien, les juifs étaient agriculteurs et les non-juifs étaient commerçants, d'accord ? Et donc les non-juifs empruntaient pour investir. D'où le caractère licite. Si vous préférez, le Rabbi Lutzato, dans cette interprétation qui est un petit peu difficile, dont on va apporter celle du Torah Tmima aussi, qui est un petit peu dans cette direction, semble dire que finalement, si on essaie de le comprendre de manière simple, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire oui, bah écoutez, c'est simple, c'est un devoir d'entraide. C'est un petit peu une forme de hardoute. Ça veut dire, mon frère, il en a besoin, tu as besoin d'argent, cet argent-là, tu ne vas pas l'utiliser pour en faire plus, tu vas l'utiliser pour vivre. Et donc, quelque part, on voudrait introduire une notion de l'utilité de l'argent pour expliquer que ce n'est pas beau, c'est moche. Oui, c'est moche. Cet argent que je vais te prêter, je ne vais pas te le prêter pour que tu puisses investir à la bourse, tu ne vas pas faire plus d'argent avec cet argent-là, je te prête cet argent parce que tu vas vivre avec. Ouais, ce qu'on appelle ici la hardoute. On disait joliment que chaque peuple, il a placé comme valeur suprême le défaut qu'il n'atteindra jamais. Les chrétiens, ils ont placé la charité. La charité chrétienne qui ne tient que sur un pied. Les arabes, ils ont placé la douceur, un peuple super rigoureux. Et nous, on a placé la hardoute, c'est-à-dire la communauté, parce que c'est quelque chose qu'on attendra difficilement. À chaque fois, on prie pour qu'un jour le peuple d'Israël soit uni, mais ce n'est pas quelque chose qui arrive facilement. On y tend. J'ai l'impression qu'on dira que quand Machiav sera là, ce sera effectivement le cas. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire finalement que lui, il dit, bon, très bien, alors, puisque ton frère, il ne va pas utiliser cet argent pour s'enrichir, parce qu'après tout, c'est logique. S'il veut s'enrichir, alors c'est normal que toi, tu prennes part à son enrichissement. Mais puisque lui, le pauvre, c'est un agriculteur, tu n'en as pas besoin. Bon, c'était le Rabbi Lutzato. L'avis du Torah Tmima, qui est le Rav Baruch Halevi Epstein, il a aussi une vision un petit peu particulière, qui veut dire aussi, donc qu'ils veulent voir des deux côtés, c'est qu'à l'époque, donc non seulement c'était un peuple agricole, mais en plus, eh bien même le riche qui avait de l'argent, il n'avait pas d'intérêt quelque part, il ne perdait pas de temps, ou il ne perdait pas d'argent. Pourquoi il ne perdait pas d'argent? Parce que lui aussi, il est agriculteur, il était un grand agriculteur, c'est vrai, il avait peut-être un ranch, mais de cet argent, il n'y avait pas de banque, il ne pouvait pas faire d'argent avec. Donc finalement, ni l'emprunteur, ni le créancier, eh bien, ne perdait, parce que l'un ne pouvait pas dire, bah, pendant ce temps, mon argent, il dort, et l'autre pouvait pas dire, bah, tu me fais gagner quelque chose que j'en ai besoin pour manger. Donc le Torah Tmima a l'air de dire, bon, à cause de l'utilité même de l'argent, c'est bon. C'est difficile cette explication, c'est très difficile, parce que ça voudrait dire que si jamais qu'il y aurait une raison pour laquelle la Torah aurait interdit le prêt avec intérêt. Non, ça n'a aucun rapport avec ça. La Torah interdit le prêt avec intérêt. En tout cas, on propose une démarche possible. C'est parce que ce que la Torah déteste, n'est-ce pas? Parce que c'est quoi le prêt intérêt? C'est que moi, je vous prête de l'argent. Non seulement vous me rendez le capital, mais en plus vous me rendez les intérêts. Si moi, j'avais investi au Forex ou j'avais investi à la bourse, j'aurais peut-être pas gagné d'argent et j'aurais sûrement perdu mon capital. Donc en perdant l'argent à mon frère juif, je vais pour sûr et au moins avoir mon capital et en plus avoir de l'intérêt. Quoi qu'il se passe, demandez à une banque, de toute façon, même si quelqu'un ne peut pas rembourser son prêt, il rembourse le capital et les intérêts. C'est une règle d'or, c'est la règle du prêt-intérêt. Et la Torah, elle déteste que je profite de mon frère juif pour m'enrichir sur son dos. Si encore je lui prêtais de l'argent avec un contrat qui est un contrat aussi, ce qu'on appelle de forme de ribite, mais qui n'est pas un ribite véritable, qui est de dire, ok, je te prête le capital, si tu gagnes, tu donnes les intérêts, si tu ne gagnes pas, tu me rends que le capital. On va voir dans un instant ce genre de ribite, à la rigueur, mais encore que c'est interdit. Mais là, véritablement, celui qui prête avec intérêt, ben, il n'a aucun risque, il récupère et le capital, et il récupère les intérêts. Et alors, le Torah Tmima rajoute, il dit, oui, mais attendez, au Moyen-Âge, c'est différent. Puisque les Juifs, on connaît toute l'histoire, on connaît tous l'histoire qu'on répond aux chrétiens, ben, nous, à l'époque, au Moyen-Âge, on n'a pas le droit d'avoir des terres, alors la seule manière pour nous de gagner notre vie, c'était de faire le banquier, et qu'à l'époque, effectivement, nous, en tant que prêteurs, cette fois-ci, cet argent, on s'en servait, et pas que pour avoir des terres, eh ben alors on pouvait utiliser cet argent, on pouvait donc demander un intérêt au goy. C'est donc là les deux avis donc du Torah Tmima et de Rabbi Luzzatto pour lesquels on a le droit de demander l'argent à un goy, on a le droit de prêter au goy avec intérêt. Il existe encore un troisième facteur, et vous allez voir qu'au fur et à mesure je m'engage dans une démarche historique. C'est Rabbi Shlomo Ephraim qui lui donne une raison, je pense, phare dans l'explication que je voudrais donner ce soir. C'est que l'étranger, en général, il a la réputation de tenter par tous les moyens de se dérober à son remboursement. Et c'est ce que va dire le Rav Weinberg dans sa lettre tout à l'heure. Eh bien, l'étranger, à une certaine époque, il faisait tout pour ne pas rembourser le juif. On racontait une fois une histoire triste et à la fois forte à la fois. C'était l'histoire d'un prince qui un jour... sur son carrosse, vous savez, à l'époque c'était des sortes de fiefs, il prend son carrosse et roule, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit un juif qui est pendu sur sa route. Il se pose la question et il dit, mince, qui c'est qui l'a pendu? On fait une enquête et on découvre qu'en fait c'est un de ses conseillers qui lui devait de l'argent, qui au lieu de lui rembourser l'a pendu. Et qu'est-ce qu'il a fait le prince? Automatiquement, sans ni une ni deux, il a pris ce conseiller et il l'a pendu. Extraordinaire, vous allez dire. Sauf que la raison qu'il a donnée, c'est, mais non, mais tu m'as privé d'une source de revenus. Donc c'est véritablement les juifs à l'époque, en tout cas tel que le rapporte le Rabbi Shlomo Ephraim, avaient une relation avec les goyim qui était très différente. Et c'est sur ce terrain que je vais glisser, qui est sur celui qu'on va faire une distinction entre ce qui était à l'époque et ce qui était aujourd'hui. Que véritablement la relation que l'on avait avec les Hakoum, avec les Ovdia Kochavim, ou bien avec les goyim, on va les appeler les goyim parce que pour le moment c'est plus simple, on devra faire une distinction d'ailleurs entre ce qu'on appelle les goyim de l'époque et les goyim d'aujourd'hui, qui ne sont pas les mêmes. Eh bien, il y avait effectivement cette problématique du non-respect. Et d'ailleurs, qui va introduire la question de savoir est-ce qu'au goy qui respecte les Sheva Mitzvot Ben Noach, c'est-à-dire les sept Mitzvot Noachid, est-ce que lui sera soumis ou non à cette obligation, en tout cas de cette obligation ou même ce devoir de prêter avec intérêt. Alors, étant parti donc sur ce chemin-là, je voudrais vous rapporter... finalement, les trois règles générales. Première règle générale, il faut savoir comment est-ce qu'on envisage le prêt. Alors, si on envisage le prêt comme un devoir d'entraide, c'est ce qui est écrit dans la Torah, « Vechi yamur achicha », si ton frère décline, d'accord ? Eh bien, si je l'envisage comme une règle d'entraide, eh bien, on peut comprendre que ce n'est pas force de loi avec les goyim, puisque le goy qui est en face, il n'a pas la règle d'entraide, il n'a pas la même obligation d'entraide. On n'est pas dans le même club, on n'a pas payé le même ticket d'entrée. Moi, ça me coûte cher d'être juif, de respecter la Torah, les 613 mitzvot. Et donc, comme j'ai cette obligation, comme j'ai cette obligation de respecter les 613 mitzvot, lui, il n'est pas dans le même club que moi. Et comme il n'est pas dans le même club que moi, comme lui n'est pas tenu de me prêter sans intérêt, eh bien moi, de la même manière, je ne suis pas obligé de lui prêter avec intérêt. D'ailleurs, c'est d'autant plus vrai que les goyim y reconnaissent que prêter avec intérêt, c'est pas mal. Si encore c'était pas une loi naturelle, si c'était une loi anti-naturelle, contre-naturelle, je veux bien, mais prêter avec intérêt, c'est débile. D'ailleurs, à tel point que la Torah, elle rapproche le fait de prêter sans intérêt aux juifs avec la Yetiat Mitzrayim. C'est quelque chose qui va ensemble, c'est les psukim d'après. C'est-à-dire que celui qui prête sans intérêt, il croit à la Yetiat Mitzrayim. Ouais. Un petit peu comme la Shemitah. La Shemitah dans la Parsha de Béar qu'on a lu juste au début, où on nous raconte l'histoire de la Shemitah, Et là, qu'est-ce que Rashi là-bas, il dit une expression qui est tombée dans le jargon israélien. Il dit, mais je comprends pas, pourquoi tu rapportes la Shemitah ici avec le don de la Torah? Il dit, quel rapport avec la choucroute? Ma'inyan Shemitah et Tselar Sinai. Si vous allez en Israël, on le dit, quel rapport avec la choucroute? Donc il dit, mais quel rapport avec la choucroute? Et effectivement, le rapport c'est que la Torah, elle a défini la règle de la Shemitah, qui est 6 années de propriété, 1 année de collectivité. Et l'année de collectivité, c'est un idéal d'égalité que les socialistes ont voulu mettre en œuvre et qui serait un idéal puissant. Mais c'est quelque chose qui n'est pas possible parce que l'égalité, finalement, c'est annuler l'identité de chacun et ça peut mener à des dérives qu'on connaît. Donc la Torah n'a pas pu accepter que ce soit cette année, ça veut dire Kulo Shabbat, ça ne peut pas être tous les jours Shabbat. Ça ne peut pas être tous les jours, ça ne peut pas être tous les ans les règles de la Shemitah. C'est 6 ans de propriété et 1 an de collectivité. Bah, va dire aux Juifs, va lui expliquer qu'un an il n'a pas retouché à sa terre. Ça peut me dire que de Dieu, n'est-ce pas? C'est pour ça que ça a été dit au Sinaï. Et alors c'est important. Souvent on demande aux enfants c'est quoi la mitzvah de la Shemitah? Ils disent on n'a pas le droit de manger les fruits d'Eretz Israël. C'est pas vrai. Au contraire, ils sont très bons. On n'a pas le droit de manger les fruits d'Eretz Israël qui ont été cultivés pour être vendus. Mais si on va en Eretz Israël et on prend une caisse et on va manger sur place, il n'y a aucun souci. Donc là, l'interdiction de la Shemitah, c'est aussi une loi qui vient du ciel, puisque si effectivement elle n'avait pas été décrétée au ciel, eh bien, personne ne l'aurait jamais, ne l'aurait appliquée. Donc de la même manière, la loi du ribbit, c'est une loi qui procède quelque part du roc, une loi qui est incompréhensible, parce que la loi naturelle veut qu'il y ait un salaire pour le temps. C'est quelque chose qui est logique. Donc ça, c'est la première démarche. La deuxième démarche, telle qu'on l'a dit, c'est le problème de la réciprocité. Si le goy, quelque part, il renonce à son intérêt, moi aussi je peux renoncer à mon intérêt, à la rigueur, pourquoi pas. Évidemment, c'est plus difficile de trouver une société de crédit qui vous offrira l'argent sans intérêt. D'ailleurs, pourquoi en Israël, c'est beaucoup développé le système du Gmar, qui sont des... Enfin, des Gmar, c'est un mot générique, mais il y a des Gmarim qui prêtent de l'argent sans intérêt, puisque la loi économique veut que tout ce qu'on prête, eh bien, ce soit avec intérêt. Alors, c'est ce que dit ici donc le Torah Tmima. Il dit, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte, je vous lis, ils ont accepté la Torah, ils ont accepté d'un commun accord, c'est ça qui est important, ils ont accepté d'un commun accord. C'est-à-dire dans le même groupe, tout le monde a accepté de se soumettre, c'est que moi je te prête sans intérêt et toi tu me prêtes sans intérêt. Que chacun serait solidaire de son prochain quant à son argent et à sa marchandise. En revanche, les peuples qui prêtent aux Juifs exigent un intérêt. Il apparaît donc naturel que les Juifs fassent de même lorsqu'ils prêtent à ces peuples. La situation est comparable à celle d'une société dont les associés sont convenus qu'ils n'exigeraient pas d'intérêt l'un de l'autre. En revanche, les relations commerciales avec le monde extérieur se referont sur la base de la perception des paiements à intérêt. Donc la création de sociétés et de corporations comportant des clauses favorisant les membres de la société constitue d'ailleurs une pratique quotidienne et universelle. On appelle ça la société en commandite, qui est un élément que je voudrais développer ce soir. Donc finalement, ce qu'on voit ici, c'est que si je prête au non-juif avec intérêt, ben c'est parce que lui me prête avec intérêt, et c'est parce que c'est la loi naturelle, et que lui n'a pas voulu se soumettre au joug de la Torah, ou bien n'a pas voulu mettre au joug que moi j'ai de lui prêter sans intérêt. Et maintenant, je voudrais rapporter 2 mishnayot contradictoires pour voir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on peut prêter ou pas prêter au prosélyte habitant? C'est un problème, le prosélyte habitant, parce que c'est vrai qu'il n'est pas juif, mais il habite avec moi, et qu'il a accepté, de se soumettre à mes lois. Alors lui, c'est le cas typique, parce que selon mon explication, j'ai un problème. C'est vrai qu'il n'est pas juif, mais bon, lui, il a accepté les règles du jeu. Donc je devrais lui prêter sans intérêt. Et là, je voudrais apporter 2 mishnayot contradictoires. Le Mishnah de Guérim, qui dit on n'a pas le droit de prêter intérêt aux prosélytes habitants. On n'a pas le droit, d'ailleurs, un point important, vous savez qu'on n'a pas le droit de prêter intérêt, mais on n'a pas le droit de payer l'intérêt non plus. C'est un autre, dans l'élément de réciprocité, c'est un élément que je n'ai pas cité, mais qui est aussi fondamental. Je ne peux pas vous demander de l'intérêt, mais vous ne pouvez pas m'en donner. C'est quelque chose d'aussi fondamental que l'intérêt que l'interdiction de prêter. Donc la Mishnah de Guérim dit clairement qu'on n'a pas le droit de prêter aux prosélytes habitants. En revanche, un Gemara dans la Metzia, vous aurez les références si vous voulez, qui dit on peut emprunter d'un païen et on peut lui prêter un intérêt, on parle ici évidemment du guerre, et il est de même du prosélyte habitant. Alors évidemment, il y a ici un décalage clair, parce que les deux sources disent des choses opposées. L'une dit qu'on n'a pas le droit, n'est-ce pas, dans la Mishnah de Guérim, et la Mishnah de la Metzia dit que, bah oui, on peut emprunter. Encore qu'elle n'est pas aussi catégorique qu'on doit, mais elle dit qu'on peut emprunter. Alors il y a diverses explications qui ont été données, notamment certains y voient une évolution historique entre les deux moments, mais que quelque part, quelque part, ce qui est fondamental, puisque même les Chachamim n'ont pas voulu ici répondre à cette contradiction, il est plus ressorti qu'on doit prêter avec intérêt qu'autre chose, mais la question a été posée. Ce qui ressort ici, c'est qu'on veut bien jouir de certains avantages, mais il faut en contrepartie en assumer les devoirs et les responsabilités, et celui qui ne le fait pas, eh bien, il est contraire à la loi de la Torah. Alors, pour ça, je voudrais vous donner maintenant un cas concret de prêt à intérêt, dont je voudrais vous donner un pérouche pour qu'on voit jusqu'au bout l'illustration du prêt à intérêt aux non-juifs. Alors, je voudrais vous rapporter une Mishnah qui se trouve dans Baba Metzia. C'est une Mishnah qui dit « En mekablim tzon barzel mi Yisrael mi pnei shehu ribit ». On ne peut pas recevoir de bétail de fer, on va expliquer, d'un juif, parce que ça s'appelle du ribit. Aval mekablim tzon barzel mi nochim, on peut recevoir du bétail de fer d'un goy. Laissez-moi vous expliquer. C'est intéressant. Alors, qu'est-ce que c'est que le bétail de fer? Ben, c'est simple. On appelle ça la société en commandite. Ça existe aujourd'hui aussi. Vous avez un éleveur, qui en l'occurrence ici est juif. Et le pauvre, il n'a pas de bétail. Et vous avez un capitaliste qui, il a du bétail. Et là, c'est un goy. Mais il ne sait pas élever ses bêtes. C'est toujours pareil. Le riche, il n'a pas le métier, le pauvre il a le métier, mais il n'a pas de quoi le pratiquer. C'est toujours la même histoire. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le goy, il va prêter ses bêtes aux juifs, n'est-ce pas? Selon un contrat qui s'appelle Tson Barzel, du menu bétail de fer. Vous allez voir pourquoi c'est un menu bétail de fer, vous allez comprendre tout de suite. C'est donc un contrat qui est passé entre un travailleur, le juif, et un capitaliste, le goy, d'accord? Et le goy, il fait un apport en menu bétail. C'est ça son capital. Un petit peu comme un business angel, au lieu d'apporter de l'argent, il amène du bétail. À l'époque, c'était comme ça. Tu en fais un business de bétail, moi j'apporte le bétail, toi t'apportes le savoir-faire, hein, je sais pas, une start-up internet. Il y aurait un type qui dirait moi je connais internet, l'autre il amène l'argent. Ce serait donc une association de ce type-là. Ce qui est important dans cette histoire, c'est que l'éleveur, il est responsable pécuniairement du bétail. C'est-à-dire que si jamais le bétail meurt, il doit rembourser. Ça veut donc dire que l'investisseur, il ne prend pas beaucoup de risques. Qu'est-ce qui se passe? Il partage les espoirs, mais il ne partage pas les craintes. Parce que si l'éleveur arrive à faire de plus en plus de bêtes, alors il va gagner de l'argent. Mais si l'éleveur il perd les bêtes, l'éleveur devra quand même lui rembourser l'argent. Donc c'est bien ici un cas, ce qu'on appelle de ribit, parce que seul l'éleveur subit les pertes, et pas celui qui prête l'argent. Et c'est pour ça qu'on appelle ça un bétail de fer. On appelle ça, moi que j'appellerais aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un investissement béton. C'est pas un investissement fer, c'est un investissement béton. À l'époque, ça n'existait pas le béton, donc ils ne pouvaient pas dire ça. Sinon, la Mishnah aurait dû dire Tson béton, parce que c'est un investissement béton. C'est un investissement dont tu ne perds pas l'argent. Effectivement, tu n'as aucun risque, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Donc, il est donc selon la règle, on dit qu'il est proche du gain, loin de la perte. Pourquoi proche du gain, loin de la perte? Parce que l'investisseur, il perd rien. Au pire des cas, il récupère le capital. Alors, il est différent d'un prêt à intérêt, dans le sens où l'intérêt n'est pas fixe, et qu'on appelle le ribit ketsutsa. C'est-à-dire que l'intérêt, il est variable. Au cas où ça ne marche pas, il ne récupère que le capital. Il n'a pas les intérêts en plus. Chose que si moi j'emprunte à la banque, et que je ne peux pas rembourser, la banque, de toute façon, ne voudra entendre aucune histoire, elle récupérera le capital et les intérêts. Donc c'est un petit peu différent en ce sens-là, mais par contre, c'est ce qu'on appelle effectivement un contrat. Où est-ce que le goy me prête avec ribit? Alors, ce qui est intéressant dans cette Mishnah, n'est-ce pas, c'est qu'elle elle autorise à recevoir du menu bétail de fer, hein, donc ce qu'on appelle Tson Barzel, d'un païen, d'accord, avant même de savoir si on peut faire un prêt d'un non-juif avec intérêt. Alors, cette fois-ci, est-ce que nous, on peut prêter avec intérêt, n'est-ce pas, ou est-ce qu'on peut être prêté, enfin, se faire prêter avec intérêt. Ce qui ressort de cette Mishnah, n'est-ce pas, c'est que ici, ce qui est important, c'est qu'on nous apprend qu'à l'époque, les non-juifs nous prêtaient avec intérêt, n'est-ce pas? Et donc, ce qui est important ici, c'est d'abord de nous dire que le prêteur n'est pas juif, parce que sinon ce serait interdit, de deux raisons. C'est-à-dire que l'éleveur ne peut pas payer de ribit, n'est-ce pas? Et l'emprunteur n'a pas le droit de lui prêter avec intérêt. Et ce qu'on remarque ici, c'est que finalement, ici, il n'y a pas de fraternité. Parce que si on était entre juifs et si on était entre frères, même dans une société agricole, eh bien, on aurait prêté le bétail gratuitement. Ou en tout cas, on aurait participé aux bénéfices, n'est-ce pas ? Et on aurait aussi peut-être participé aux pertes. Je tiens à préciser que ce contrat qui participe aux bénéfices et participe aux pertes, on appelle le contrat de Iska. Le contrat du Iska, qu'on appelle le Heter Iska, qui est la base du prêt moderne à intérêt, qui est de dire, au lieu que ce qu'on appelle une moitié dépôt, une moitié prêt, dans lequel on participe à la fois aux pertes et on participe aussi aux gains. Et donc ce contrat, dans ce contrat-là, on voit ici qu'il n'y a pas d'opération de fraternité entre le juif et le goy. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant, parce que si on revient au pasouk, et c'est à partir de maintenant que ça devient assez intéressant, regardez ce que dit le pasouk. Les deux psukim qui sont dans Vaïkra, dans le Perek Kaf'e, se suivent Lamed et Lamed Vav, qui dit Vechiamur Hachicha, ou Matayado Nimecha, Vechezek Tabo, Ger Vetoshav, Vechayima. D'accord ? C'est-à-dire que si ton frère vient à décliner et qu'il te tend la main, tu devras le soutenir, d'accord ? Le Ger et le Toshav, Vechayima, parce qu'il va vivre avec toi. Et le verset d'après, Altikach Meitone Sher Vetarbit, ne lui prends pas d'usure et de prêt, Veyareta Melokecha, et tu craindras ton Dieu, Vechay Achicha Imar. Si vous remarquez, dans les deux versets, on parle « tu vivras avec ton frère ». Mais dans le premier, c'est écrit « vachai imar », il va vivre avec toi. Et dans le deuxième, « vachai achicha imar », ton frère vivra avec toi. Comme s'il y avait deux lois. Il y a la loi de fraternité avec ton prochain et la loi de fraternité avec ton prochain juif. Et c'est cette distinction qui est très intéressante. C'est que le pasouk, en doublant cette répétition de « vachai imar » ou « vachai achicha imar », finalement, il introduit qu'il y a une différence. Une différence de fraternité ou de communauté, entre ton frère et celui qui n'est pas ton frère. Celui qui n'est pas ton frère, tu as un devoir qu'on appelle aujourd'hui d'arke shalom, c'est-à-dire de paix, ou un devoir d'aumône ou de respect, mais ton frère, tu as une obligation qui est celle de la Torah. Il est quelque part frère dans les mitzvot. Et comme il est frère dans les mitzvot, eh bien il est frère dans la peine et frère dans la joie, et donc on doit participer avec lui. Et donc, ce qui est important ici, c'est que comme lui, il accepte le joug des mitzvot, que toi tu as accepté, il a payé son ticket d'entrée pour être avec toi. Il se dégage donc de cette étude l'idée suivante, qu'il faut introduire la différence entre vechai imar, vechai achicha imar, c'est-à-dire ton frère va vivre avec toi, ou bien ton voisin va vivre avec toi. Et c'est cette distinction qui va faire toute la différence dans l'étude qu'on a apportée. Je voudrais donc vous lire maintenant la lettre du Rav Weinberg, qui est tout à fait significative par rapport à cela. L'étude qu'on a dégagée maintenant, c'est que la Torah s'adresse à tout le monde. Elle ne s'adresse pas qu'aux juifs. En revanche, le devoir de fraternité s'adresse plus à mon frère juif qu'à mon voisin goy. Pourquoi ? Parce que lui, il a accepté le joug de la Torah comme moi, et parce que lui respecte les mêmes règles que moi. Maintenant, comment se fait-il ? Et donc on explique pourquoi est-ce qu'on peut prêter avec un goy avec intérêt. On a l'explication. Elle est simple, c'est que lui ne veut pas se soumettre comme moi aux mêmes règles. Maintenant, il faut expliquer les autres règles, les règles de « est-ce que je peux voler un non-juif » n'est-ce pas ? Comme on a voulu le dire au début, est-ce que je peux me tromper dans les poids, ou bien est-ce que je peux ne pas lui remettre quelque chose qu'il aurait perdu ? Dans quel cadre cela va rentrer ? Eh bien, ça va rentrer exactement dans la définition qu'on a donnée, ce qu'on appelle le Vechayimar, Vechayarichayimar, ton frère va vivre avec toi, ou ton voisin va vivre avec toi. Je vais vous lire donc cette lettre qui est très intéressante, qui est écrite en 1913. Donc, le Rav Weinberg était donc à l'époque, Rav Weinberg c'est toute une histoire, c'était un gaon, il a écrit le Shutz Kideesh, Et donc mon maître et son élève, puisque c'est le père de mon maître qui l'a fait sortir d'Allemagne. Pour la petite histoire, il avait donc écrit beaucoup de Sfarim, et tout a été brûlé pendant la Shoah. Et ce qui est resté, c'est les restes du feu, Sridehesh, les cendres. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le Sridehesh. Il a vécu ensuite à Montreux, retiré jusqu'à sa mort, mais il a écrit deux shoutim fondamentaux qui sont étudiés dans toutes les yeshivotes. Le rabbi de Lubavitch, d'ailleurs, a été recevoir une smicha du Rav Weinberg en 1936, vous imaginez, juste avant la guerre, et il est venu lui demander une smicha qu'il lui a donnée. Et on retrouve le Rav Weinberg, pour la petite histoire, que j'ai découvert il y a quelques années, il était professeur de droit romain à la faculté de Grenoble, de Berlin. Qu'est-ce que fichait un rabbin avec une barbe en 1936 sous Hitler à Berlin ? Eh bien, on a retrouvé que c'est Einstein qui l'a fait rentrer là-bas pour lui donner une protectia et qui puisse lui permettre d'avoir des papiers ensuite pour sortir. Donc c'est Einstein qui l'a pistonné pour rentrer là-bas et qui l'a fait travailler. Et donc le Rav Weinberg reçoit une lettre d'un type qui lui dit voilà, on est en 1913 et il y a un journal qui est paru par les antisémites et qui reprennent toutes les accusations habituelles, qui disent, voilà, vous les juifs, vous écrivez dans vos textes qu'il faut voler les goïms. Alors vous allez voir, voilà la réponse du Rav Weinberg. Je vous la lis, parce que c'est historique. Béalon a Antichemi, dans le journal antisémite, Moni Moto Amashtinim, Bekama Dvarim, Nekuchim et Sifre Datenu, Shem Midnadgim, les filles d'Atam, les Chouké Amoussar, Vetzedek Amishpati. Ces gens-là, ces antisémites, ils ont relevé dans nos livres toutes, c'est-à-dire consciencieusement, ils ont relevé toutes ces phrases qui sont antimorales. Tous ceux qui vont contre les règles même de la justice, pour pouvoir décrier les juifs comme étant un peuple sale, menteur et voleur, et puissent décrier encore plus ce sale peuple. Donc ils disent tous ces gens-là, Sheber Choldor, Mime Aman, Racha, Mishtamshim, Bemare Mekomot Alalu, Birde, Leashpil, Kavod Datenu. Ils disent, c'est une vieille technique, même à l'époque d'Aman, et de tout temps, on a repris où Saint Paul, c'est-à-dire aussi un juif, on reprit le contenu de nos textes, et on essayait bien sûr de le retirer du contexte pour pouvoir nous accuser. Je vous renvoie à toutes les disputations qui avaient lieu au Moyen-Âge. Et qu'est-ce qu'il dit ? Ikar kavanatam, limtso, aliede nimuk musari, leadzdik et maase apesha shelahem, beyachas el ayehudim, bifne olam anaor, הם מתחפשים כנלחמים עם פשעי בני אדם וכשואפים להשמדת היהודים כביכול. C'est-à-dire que eux, leur but finalement c'est simple, ils connaissent le but, c'est de détruire les juifs. Donc ils vont juste trouver les arguments qui vont leur permettre de nous détruire. Et qu'est-ce qu'il dit? Iné les machal, je saute, iné les machal, par exemple. Atshuva ayoter nechona, vegam amitit i. Shekol advarim anemarim alakum. Il lui répond donc à ce juif qui s'inquiète de voir tous ces journaux qui nous critiquent. Il dit, mais ce qu'il faut répondre à tout ce genre, tout ce qu'on appelle nous Akum, parce que dans le vocabulaire talmudique, Akum c'est Oved Avodat Kochavim, ceux qui font la Avodazara, ceux qui aiment des dieux étrangers, pour lesquels ces choses ont été écrites, d'accord. Enam mechavenim klal el anotrim shebeyamenu. C'est un Gaon qui dit ça. Il dit, mais non, tout ce qu'on disait sur les Akum, tout ce qu'on disait sur ces gens-là à l'époque, qu'il fallait voler ou qu'on pouvait voler, on ne parle pas des chrétiens de notre époque. Chez M. Dvarim Elou Moussavim El Notrim, chez Modim Be'amitat Aemunat Aelokit, elle ne s'adresse pas contre les chrétiens de cette époque qui, eux, ne renient pas la notion de Dieu, ni la notion de justice, ou Makirim Be'erer Zechuyata Adam, et qui accepte la notion d'humain. D'accord ? L'Inyan Arzarat Aveda. Et justement, dans ce cas connu, dans lequel dans la Gemara dit qu'on n'est pas obligé de ramener un objet perdu qui appartient à un goy, betaou takou, mais que dans le cas où est-ce qu'un goy fait une erreur, par exemple dans une transaction commerciale, on s'est rendu compte qu'il nous a rendu trop d'argent, on n'est pas obligé de lui ramener. C'est ce qui est écrit dans la Gemara. Adinim shotsegu lirod be'alan, katav agon rav menachem ameiri be'sefer shitat mekubetzet. C'est très important. C'est pas lui qui le dit, c'est le shitat mekubetzet qui le dit clairement. Regardez, il dit. Shehamim, Agdurim, Bedarke, Adatot, Enam, Birchalze. Il dit que ces peuples dans lesquels on parlait, auxquels on pouvait ne pas rendre la monnaie, ou bien auxquels on n'était pas obligé de leur rendre, les objets qu'ils avaient perdus, eh bien, on ne parle pas des peuples d'aujourd'hui, on parle des peuples d'alors. Arehem, qui est Israël Gamour, les peuples d'aujourd'hui sont considérés comme Israël, pas en sens qu'ils sont juifs, mais en ce sens qu'ils respectent les règles de justice. Donc finalement, il dit clairement que les peuples d'aujourd'hui ne sont pas concernés par ce qui était écrit par les peuples d'hier. Afilu mashetiru chazal, taoutakum veavedato. Il dit même ce que nos maîtres ont permis. Enze mishum shekpidu et mamono venatlu miminus chut mishpatit. Ils n'ont pas voulu donner un fondement juridique au fait qu'on a le droit de ne pas rendre l'argent. L'idée, c'est qu'il n'y a pas une loi qui dit on n'a pas le droit de rendre l'argent. Mais ce qu'ils disent ici, c'est important. Et la mipneta amacher, c'est pour une autre raison qu'ils ont écrit ça. Chez Yesodo Munach Bematsav, Akulturi, Ubetnaï Amishpat, chez la Amim, chez Chayou Bizmanaou. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Comment ça se passait à l'époque? Yadoua chez Amim Akdumim. On sait très bien que les peuples de l'époque avec lesquels les juifs vivaient, Loyo Noagim, la Shiv, Avedal, Bealav, eux, ils ne rendaient pas les objets qu'ils perdaient. Quand ils trouvaient quelque chose, ils le gardaient pour eux. Vegam Akzela, Ayalaem et Tergamour, eux, ils avaient le droit de voler, ça ne posait aucun problème. Pour eux, c'était la règle de l'époque. Velozubilvad, et là, chez Maase Akzela, Ayan Ershav Benem, les Maase Gvura. Encore mieux, pour eux, voler, c'était bien. Il y avait pas, c'était quelque chose qui n'y a aucun problème, d'accord. Veloten et Gazlan Srout, Aldavaranigzal. Donc finalement, à l'époque, c'était quelque chose de reçu, de volé. Et donc, il se comportait de cette manière. Et alors, c'est dans cette époque-là, où est-ce que les gens se comportaient de cette manière, que le juif n'adoptait pas un comportement anti-toraïque, pas du tout, mais qu'il essayait de s'adapter pour pouvoir survivre dans ce milieu hostile. C'est ça, en fait, ce que veut dire ici le Shita Mekoubetset, et veut dire le Rav Weinberg. On ne donnait aucune autorisation juridique au droit de voler, mais finalement dans un univers où, d'ailleurs à l'époque, au Moyen-Âge, où est-ce qu'on ne remboursait pas les juifs, on leur empruntait l'argent mais on ne les remboursait pas, où est-ce qu'on les volait ou bien où est-ce qu'on les tuait, bon, d'accord, il faut être juste, mais il ne faut pas être frayeur, il ne faut pas non plus être un idiot, et c'est ce que dit ici, c'est que la raison pour laquelle ça a été écrit, c'est qu'à l'époque on vivait une autre réalité. Et donc Chazal Asrou est à Gezel Afilou Miakoum les fiches des mains à ses péchats. Mais en fait, on n'a pas le droit de voler un goy. C'est strictement interdit. Vechachachou, chez l'Oyargil et Tatsmo, Yehudi, mais Maase Pécha. Et là, il apporte un élément très important. Comment vous pouvez imaginer qu'un rabbin, il puisse autoriser le vol? Oula, il y a la lumière fuit. Comment c'est possible? C'est pas possible. Parce que si je t'autorise à mentir, tu vas finir par Ouragala l'échelon. C'est-à-dire, tu vas continuer à mentir, tu vas t'entraîner. Si je t'autorise à voler, tu vas voler. C'est pas possible qu'une personne soit schizophrène. C'est qu'elle apprenne à voler dans un groupe et que d'un autre côté, elle soit capable de pas voler. C'est quelque chose qui est anti-toraïque. Donc, il n'est pas possible, d'après le Rav Weinberg, que la Torah, elle ait autorisé une chose pareille. Parce que sinon, finalement, elle aurait entraîné le peuple juif à sa perte en le faisant descendre de sa valeur morale. Il dit Otzot. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Tu ne pouvais pas demander à l'époque que les juifs se comportent autrement envers ces gens-là. Pourquoi? Israël, chez Bedorotaem, a eu les bases. Velem Shisa Bide Apraim. Les juifs étaient considérés comme des moins que rien à cette époque. Achraim, a eu Tluim Laem Mineged. Les biens des juifs étaient considérés comme efker. Comme on l'a dit tout à l'heure avec le prince, il pouvait venir à n'importe quel moment et prendre sa vie. C'était donc une condition qu'on appelle oracha, une condition toute particulière qui a fait qu'à l'époque on était obligé de se comporter comme ça. Bechol mikre, kal ayu akum bozim veshosasim beisrael ve'en moche. Tamid yatsu akum, pardon, Zakaim Bamishfat. Et quoi que tu fasses, dès que tu te présentais devant un juge contre un non-juif, le non-juif est gagné. Il n'y avait pas de situation dans laquelle le juif pouvait gagner. Ve Israël Chayavim. Ve Matsaf Kaze ou Betnaim Kaele. Et donc, dans une situation qui était celle-là, Iné, Imelim Israël Taoutakum, O Avedato, Bevo, Amo, etc. Are Loitsilu Od Achos Katan Mirouch Israël, Shenigzal Beedakum. Donc, c'était quelque chose finalement qui était forcé, sinon le juif ne pouvait pas le faire. Ou Mi, Shedato Yafé. Et là, le Rav Weinberg dit une chose intéressante. Il dit, est-ce que toi, tu connais un peuple qui va avoir le courage de l'écrire? Si les Chachamim, ils ont autorisé à écrire cette chose-là, c'est pour le limiter à ces deux éléments et pour l'interdire pour tout le reste. C'est la force du peuple du livre, c'est que finalement, il n'y a pas ce qu'on appelle une loi cachée, qui serait une loi entre nous, qui dit, écoute, on va faire un complot et puis hop, les goy, on va les avoir. Loin de là, l'idée, c'est qu'il a été défini clairement quelles étaient les deux autorisations, ou les trois autorisations, entre le ribite et ces éléments-là, qui pouvaient être faites d'un comportement qui pourrait être considéré comme pas très joli. C'est bien la preuve de la grandeur des sages, c'est que le reste était interdit, t'as pas à les tuer. Sinon, s'ils ont mis ça, c'est qu'on pourrait. C'est exhaustif. C'est qu'on ne peut pas en déduire autre chose. Et c'est ça, finalement, la grandeur. Et à toi, à ma sefer, chez Nitananout, ça relavine, botomouvan, à cher kol michirotse, la kire trayav, chez l'oumazo, istakel besfarav. Tout celui qui veut savoir comment le peuple juif se comporte, qu'il lit dans ses livres. Et dans nos livres, c'est écrit clairement. Il est écrit clairement ce qu'on a le droit de faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Il n'y a pas ce qu'on appelle une loi qui serait une loi à côté. Et il rapporte une anecdote qui devait être à l'époque. C'est que les antisémites disaient, vous savez pourquoi est-ce que les juifs n'ont pas prêté au Akum? Parce que Akum, c'est Ovde Christus ou Myriam. Parce que Aïn Kravav, c'est ceux qui aiment Christus ou Myriam. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, c'est donc les antisémites de l'époque, ils disaient que les juifs avaient fait ça contre les chrétiens, puisque ils traduisaient Aïn Vav comme ceux qui aimaient ces deux-là. Alors, c'est vraiment une interprétation de l'époque qui était utilisée, et le Rav Weinberg s'y oppose avec fermeté. Et il dit donc à la fin de sa lettre, la chona alay leir al sheviu et adin bechoshen mishpat, et donc il rapporte clairement un din dans le choshen mishpat qui dit l'inyan halukat a revach. Il dit que c'est interdit de voler. Clairement, le choshen mishpat il dit im vechen im ganav ou gazal, c'est interdit. Donc même les akum. Bon, là, il rapporte qu'une partie. Donc finalement, même le Rochen Mishpat lui-même interdit de voler. Et la situation qui était à l'époque, c'était Ben Aganav et Anignav. C'est finalement une situation entre voleurs. Et donc la situation entre voleurs n'est pas du tout la même. Ce qui apparaît donc ici dans le texte du Rav Weinberg clairement, c'est qu'il y a donc une distinction voulue entre le juif, bien sûr, qui est mon frère, avec qui je vis, et entre le non-juif de l'époque et le non-juif d'aujourd'hui. Et donc, pour répondre à la question, ma relation que j'ai avec le Bnei Noach, eh bien, elle est claire. C'est que le Bnei Noach, ou le Goy, est un homme à part entière, avec qui j'ai le devoir de respect, mais en ce qui concerne les lois de fraternité, eh bien, elles ne s'appliquent pas. Les lois de fraternité, elles ne s'appliquent qu'entre nous ou qu'entre les personnes. Bon, alors effectivement, on pourrait toujours poser la question, mais ça serait plutôt de la halakha et je ne saurais pas répondre. Qu'est-ce qui se passerait, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai rapporté, de la personne qui déciderait de se mettre sous le joug de la Torah sans être juif, par exemple, donc l'idée du guerre. Eh bien, c'est que finalement, il n'y a que entre des personnes qui acceptent le joug de la Torah que je peux accepter. C'est ça l'exigence de fraternité que Akadosh Baruch Hu a demandé au peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Et il dit clairement, comme le rapporte le Tosfot, que celui qui accepte d'assurer les lois du Ribbit, eh bien, c'est comme s'il avait accepté le hol de la Torah. Parce que finalement, il a accepté la règle de base, qui est la règle de fraternité entre les Juifs et entre les Juifs eux-mêmes. Voilà. Et donc cette idée que je voulais donc développer ce soir, et avec laquelle je termine maintenant, c'est que j'ai voulu donc distinguer les deux versets qui se suivent, dont l'un dit « Vechai imcha » et « Vechai achicha imar ». Et la deux distinctions fait définir en fait est-ce qu'il y a une règle de fraternité envers les juifs et envers les goyes. Voilà. Si vous avez des questions.
Dure une heure, hein, pratiquement.
Ça te répond, Jean-David, à ta question ? Ça répond à ta question ? C'est intéressant que cette lettre, elle a été écrite en plein milieu de l'antisémitisme. Et c'est une lettre qui a été vécue vraiment en plein feu, quoi. À l'époque, c'était en Allemagne, en 1913. Déjà à l'époque, on sentait de l'antisémitisme. C'est pas long. Pardon ? Oui, c'était avant Hitler, mais il y avait déjà à l'époque une ambiance assez chaude, quoi. Les pogroms, c'est pas dit. Les Juifs, ils ont toujours vécu cette situation terrible. Juste. D'ailleurs, même dans, si tu prends Dina de Malchut Adina purement et simplement, de savoir est-ce que.
C'est énorme parce que du coup, ça devient un géomètre invariable. Ça veut dire. Il me venait un exemple littéraire, sûrement rien à voir, mais on a réimprimé il y a quelques années un livre de Christian Taylor qui parle d'une correspondance. Voilà, connu à cette adresse. Une correspondance avec un cas très précis, c'est une fiction, hein, un roman, mais il y avait donc deux amis, adhéré aux idées nazies. Le roman montre très bien, très courte mais très concise, montre très bien comment en fait il se fait contaminer avec ces idées-là et il en vient à ne plus rien respecter de son amitié avec le juif, plus rien, même pas la sœur de son cet ami avec qui il a eu une histoire, etc. Il n'en vient à rien respecter du tout, il a laissé crever devant sa porte dans son jardin juste pour ne pas se compromettre avec les nazis qui sont dans sa maison. Et du coup, le juif se sent, lui, il n'y a pas une question de vengeance, mais il se sent du coup presque dégagé de toute amitié avec cet individu qui se conduit si mal avec lui. Et du coup, par un jeu très subtil de messages qu'il lui envoie par lettre, comme toute la correspondance à l'époque est ouverte, il fait croire donc aux nazis qu'en fait c'est un transfuge, ce mec-là, et qu'au lieu d'être un vrai nazi, en fait il complote avec un juif aux États-Unis, etc. Évidemment, l'Angoy est ici en Bretagne, il horrifie, lui dit quand même notre amitié, etc. Et on voit le juif qui s'enferme dans cette logique de vengeance et qui conduit à sa perte. On a envie de dire qu'une chose, c'est quand même c'est bien fait pour lui. C'est-à-dire, on ne pourrait pas dire, et en même temps, il y a un sentiment gênant parce que la Torah nous demande clairement de ne pas se venger. Ça veut dire que si j'ai un ami qui vient nazi, ou si, pour prendre un exemple contemporain qui peut arriver, j'ai un très bon copain de fac, une autre nationale, à un moment donné, il glisse, il me tient un gros point de sémi, c'est toujours mon ami, je suis toujours tenu. Ou des référents, ou une certaine amitié avec lui, ou alors parce qu'il va commencer à se confronter, je me comporte mal.
Non, alors c'est différent, parce que là on parle ici d'abord c'était sur le travail, donc on parlait de relations commerciales. Là déjà tu vas dans des relations qui sont un petit peu différentes, où t'es pas obligé d'avoir un comportement. Je répondrai pas parce que je sais pas. Mais en ce qui concerne le travail, c'est tout particulier. Et pourquoi c'est particulier? Parce que quand on parle de Dina des Malchut Adina, d'ailleurs en France c'est le cas, la loi de la Torah, elle s'applique quand tu ce qu'on appelle dans la notion du médiateur. Tu sais que si toi et moi on fait un contrat, eh ben on s'oblige devant le juge. Si on décide de se mettre sous un rave et qu'on décide d'avoir des relations commerciales qui sont les nôtres, eh ben le juge peut enforcer notre loi. Il peut enforcer notre contrat. Alors tu peux justement, d'abord tu peux, mais tu peux aller voir le juge non juif et pour enforcer ta loi, pour enforcer ton contrat, bien sûr. Non, par exemple, imagine que toi et moi. Bien sûr, ça existe. Alors, par exemple, je te donne deux exemples qui sont arrivés. Aux États-Unis, c'est très courant. Aux États-Unis, très courant avec les avocats juifs. Aux États-Unis, c'est le. Qui arrive souvent, c'est le problème de la. Comment dire, des héritages. Le problème des héritages, dans lequel il y a des gens froum qui décident d'utiliser les règles d'héritage religieuses, juives. Et puis, des fois, les membres de la famille ne sont pas d'accord. Mais par exemple, le père a décidé de faire comme ça. Et aux États-Unis, dans l'État de New York, moi j'ai vu plusieurs cas dans lesquels ils ont été devant des tribunaux non juifs pour régler le problème. Je crois que ça dépend des cas. Ça dépend des cas, mais je sais qu'il y a des cas dans lesquels ça existe. Mais ce que je voudrais plus présenter par là, je pense qu'il y a quand même des cas où c'est interdit, mais je ne les connais pas. Mais ce que je voudrais plus présenter par là, c'est que le droit non juif reconnaît qu'entre toi et moi, il puisse y avoir un contrat qui est érigé par la loi juive. Ça s'appelle le cas du médiateur. C'est qu'on a le droit en France, d'ailleurs je crois que ça a voulu se faire, ils ont voulu faire des bates d'inim dans lequel le droit français reconnaît que deux personnes se mettent sous un médiateur qui n'est pas juge. Dans le droit contractuel, pas dans le droit pénal. Voilà. Et de la même manière, par exemple, c'est que nous on reconnaît pas la loi des divorces qui est française. Parce que donc dans le droit du statut familial, on ne reconnaît pas. Mais dans le droit contractuel, on peut reconnaître. C'est typiquement le cas de Dina des Malchut Adina, où par exemple, je sais pas moi, les règles courantes là, dans Baba Batra, quand on doit construire un mur, quelle hauteur entre nous, etc., on peut très bien se référer dans les Siminaga Makom, qui sont les lois du lieu, tu vois. Donc, je veux plus mettre en avant le fait que le droit non juif, n'est-ce pas, reconnaît que des juifs puissent entre eux être régis sous un régime qui est le droit juif. C'est ça la particularité qu'on vit. C'est intéressant que ce soit reconnu. Pas quelqu'un me racontait récemment, mais c'est un cas qui est en ce moment de se passer, mais c'est un cas très difficile, dans lequel un père s'est embrouillé avec sa mère, avec sa femme, pardon, et la femme, elle a accouché. Et la femme, elle a voulu faire du mal à son mari, et donc elle n'a pas laissé venir assister au Brit. Alors le père, il a attaqué la femme pour violence sexuelle sur un bébé. Donc maintenant, le tribunal va devoir juger et de savoir si le Brit est une violence sexuelle ou pas. Parce qu'elle a mutilé son enfant. Elle a fait le Brit.
Donc voilà, c'est un...
Alors, c'est ce que le tribunal va devoir trancher. Il va devoir dire est-ce que ça fait partie ce qu'on appelle d'un minag à eux, ou est-ce que ça fait partie, ou est-ce que c'est quelque chose qui est contre la loi. Ben, ça va se passer, parce que ça se passe en ce moment. Ben, pour t'expliquer que les problématiques, en tout cas, il arrive souvent que le droit non juif doive statuer sur des contrats faits entre juifs sous le domaine. Mais c'est important parce que si par exemple toi et moi on a décidé d'aller devant une tierce personne et que cette tierce personne donne un jugement qui ne me convient pas, et bien si je vais devant le tribunal me dira mais tu as décidé, peut-être sous cette personne, tu y restes. C'est quelque chose de très important. C'est ça le dîner des macrotadina. Et ce qu'on a vu ce soir qui est tout particulier, c'est que les relations contractuelles qui peuvent être très bénies, très larges envers mon frère juif, je ne suis pas obligé de les tenir pour mon frère, pour le voisin non juif. C'est ça que je veux dire, voilà. Si vous n'avez pas d'autres questions.
C'était j'ai pas bien compris quel pourrait être le statut
du guerre.
Ouais,
ben c'est la contradiction que j'ai voulu rapporter parce qu'on n'a pas la réponse, c'est qu'on a deux sources qui disent le contraire. On a la Mishnah de Guérim qui dit que tu ne dois pas lui prêter et la Gemara de Bakama qui dit que tu dois lui prêter avec intérêt. C'est difficile, il n'y a pas la réponse. Quoi. Mais c'est clairement un problème qui a été débattu. Je voulais rapporter parce que dans la logique de ce qu'on a expliqué, ça rentrerait, tu devrais lui prêter sans intérêt dans la mesure où lui, il accepte tes lois. Voilà. Vas-y. Pas forcément la mienne. Ça voulait dire. C'est juste. D'un autre côté, quand même, il
fait.
Ouais, c'est vrai. Bah pas forcément, mais la question se poserait plutôt en Eretz Israël. S'il est en Eretz Israël, il respecte les chamizot ben noirs, et qui en plus il respecte les coutumes qui sont là-bas. C'est plutôt le guerre qui est au chav, le guerre. On parle du prosélyte habitant. On parle pas du goy qui respecte les chamizot ben noirs en dehors d'Israël. Ce que parle la Mishnah de Guérim, c'est celui qui est habitant en Eretz Israël, donc qui non seulement apprend les chamizot ben noirs, et en plus respecte les coutumes. C'est là où ça devient plus intéressant, parce qu'il accepte non seulement le joug, mais en plus, il accepte les règles. Et là, justement, on n'a pas la réponse, dans la mesure où c'est contradictoire. La règle, c'est simple. C'est qu'à part le Rambam qui pense que tu le mitzvah, l'obligation de prêter avec intérêt, le reste des commentateurs sont quand même plus clairs. Ce n'est pas une obligation de prêter avec intérêt avec un goy. Je ne détiens pas toutes les lectures, mais... Non, parce qu'il rapporte le Shittah Mekoubetzet. Non, parce qu'il rapporte le Shittah Mekoubetzet et le Meiri qui sont bien antérieurs et qui clairement ont déjà changé la lecture.
Donc ça ne peut pas être taxé, cette lettre du Rhein-Main.
Non, c'est pas assez. Je vois ce que tu veux dire.
Je vois ce que tu veux dire.
Non, c'est clair que non. D'ailleurs, le prochain Mishpat aussi le montre clairement, c'est interdit de voler un non-juif. Donc c'est que clairement, les relations contractuelles qu'on a avec les non-juifs doivent être empruntées de la plus grande loyauté. En revanche, ils ne doivent pas être forcément empruntés de la plus grande fraternité. Je ne suis pas obligé de lui offrir les mêmes ristournes que je pourrais faire à mon frère, de la même manière qu'il ne le ferait peut-être pas pour moi. Mais c'est différent, c'est deux cadres bien différents.
Oui, mais alors, si tu peux me permettre, ce n'est pas exactement la même chose, mais dans le cadre du travail, on voit bien que, pour être concret, on nous demande un petit peu une chose, c'est son contraire. Dans ton exemple de la gauche, c'était très intéressant par rapport à l'élection. De loin dans un Torah qui me demande d'être séparé, de ne pas peur que j'en vienne à être cette fille frappée de chaleur, de peur de devenir copain avec lui, de ne pas manger avec lui, de ne pas respecter les mêmes coutumes vestimentaires que lui, de rester juif, etc. Donc d'être séparé. Mmh. Tout ce qu'on a dit sur cette séparation. Et en même temps, si je dois le considérer comme un frère, si je suis là pour essayer de le ramener vers les consciences d'Hachem.
Tu parles, attention. Alors, il y a ta deux. Oui, d'accord. Mais c'est deux choses différentes. La loyauté et la fraternité, c'est deux choses différentes, quoi. Enfin, j'espère bien.
Oui, bien sûr, mais on a l'impression que les sages, ils ont été tenus à se dire bon, voilà, les juifs, ils sont en pousse la reste, donc il y a un danger, la situation est tellement forte, et en même temps, il faut qu'on soit droit, qu'on soit exemplaire.
Oui, bien sûr. Moi, je pense pas qu'il y ait une schizophrénie, parce que c'est deux choses différentes. La question est de savoir quelle est ma relation dans le travail avec lui. Avec eux.
Ah, je peux
tout faire avec lui, sauf. Alors, si. Tu pouvais nous parler d'une histoire d'amitié. Tu ne peux pas. Tu dois être différent, mais c'est un autre sujet. Le problème d'être kadosh, âme kadosh, d'être séparé, etc. Après, t'as Israël, c'est plus ni les nations, ni chez les nations, c'est avec les nations. Mais ce sont d'autres règles qui font qu'effectivement on fait en sorte de limiter, non pas limiter les contacts, mais en tout cas de limiter au maximum la possibilité de mélange. Ça, c'est quelque chose de fondamental chez nous. Mais c'est pas dans un esprit de, pas, ce qui est très important que je veux dire par là, c'est pas dans un esprit de gizanout, de racisme. C'est dans un esprit de, comment dire, de garder son identité. C'est dans cet esprit-là. Donc tant que c'est dans cet esprit, les règles de cordialité, elles s'appliquent. Après, quelle est la limite? Je suis pas post-sec, mais tu as toujours une limite, effectivement. Si tu considères la cordialité, elle va jusqu'à manger, etc. Les risques sont présents. Les rachamim ont prévu des règles, qui sont des règles, effectivement, du vin, etc. Enfin, qui sont des règles particulières. Mais je pense quand même que c'est clairement séparé, ma relation contractuelle et ma relation fraternelle. Je suis pas personnellement rave pour te dire de quelle manière il faut se comporter parfaitement avec les goy. Je veux pas rentrer dans ce jeu-là. J'ai aucune compétence sur la matière. Mais je pense que c'est pas faux de séparer les deux éléments. Alors dans le Gertosha, il a été élargi. Que le Gertosha, mais ensuite il a été élargi. Dans la suite de l'histoire, il a été élargi. Effectivement. Bien sûr. C'était élargi à. Parce qu'après il n'y a plus de Gertosha finalement. Ouais, ou disons qu'à une époque c'était catastrophique, on va dire ça comme ça. À une époque il y avait clairement un comportement d'égoïme extrêmement destructeur envers les juifs, et c'est ça qui est important. Je crois que c'est ça qui apparaît dans la lettre du Ravenberg, c'est que leur comportement, c'est pas qu'il était mauvais, c'est qu'il était destructeur envers les juifs. Et donc il y avait besoin d'avoir une attitude qui nous permette quand même de tenir. Je crois que l'exemple du prince, qui est une histoire vraie, le montre clairement, quoi. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les deux psukim sont rapprochés l'un à côté de l'autre. Et c'est le Ravenberg lui-même qui fait la remarque, qui est que d'un côté c'est Vechai Achicha et de l'autre côté c'est Vechai Imar. Et qui fait qu'il y a donc ce qu'on appelle, lui il appelle ça le jus fraternitis, hein, je ne l'ai pas dit en latin, mais c'est comme ça, c'est le devoir de fraternité. Voilà. C'est le juif d'ailleurs, c'est le juif qui est dans l'universel. C'est toujours la même histoire. Il y a toujours un juif au milieu qui fait la porte de l'universalité. Tu peux le voir de plusieurs façons. Une des façons, c'est que le danger existe. Tu sais, à trop te rapprocher, tu peux te diluer. Le danger existe. C'est toujours la barrière qu'il faut mettre entre trop de séparation et trop de rapprochement.
Je reviens même sur ce début sur Abraham, tu disais. s'est séparé point, mais c'est pas il a fait du précède, il est allé vers les autres.
Tu sais,
il a fait ce mouvement à la fois, à chaque fois, de séparation et de
rapprochement.
Rapprochement.
C'est ce qui est très intéressant.
Dans le travail, tu retrouves.
Je raconte une histoire intéressante. Au XXe siècle, c'est qu'aujourd'hui, on a ce problème du rapprochement avec l'égoïme. Par exemple, je sais qu'aux États-Unis, le mouvement Chabad, il a une action très 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 forte au niveau des Chamizot Bene Noir. Il rapproche beaucoup de non-juifs. On n'a pas tellement en France, on ne le voit pas, mais aux États-Unis, c'est un mouvement très très fort. Où est-ce que tu vois bien qu'il y a ce mouvement de rapprochement? On pourrait croire que nous, en France... parce que le rabbi l'avait dit certainement, et aussi parce que je pense que la mentalité américaine est différente. Mais aux États-Unis, les campagnes de chez la Mizot Bene Noir sont énormes. T'as qu'à voir, c'est absolument fou. C'est-à-dire qu'il y a une volonté de se rapprocher aussi, enfin, pas de se rapprocher, de les rapprocher, pardon.
De les rapprocher.
Mais ce mécanisme que tu décris, d'éloignement-rapprochement, c'est un mécanisme naturel. Je pense qu'à un moment donné, tu t'éloignes pour te retrouver, puis tu te rapproches pour le rapprocher. C'est pas du prosélytisme, tu remarqueras. C'est pas du prosélytisme. Parce que chez la Mizot Bene Noir, tu deviens pas juif. Ouais. Tu respectes le strict minimum.
Non, j'entends bien, mais j'ai essayé de voir qu'est-ce que cette attitude de séparation et en même temps de qu'est-ce qu'elle nous apprend dans le travail, hein, pour en revenir à ce sujet-là. C'est peut-être un peu loin, mais c'est acrobatique. Un enseignement par rapport au travail, mais il me semble qu'on a quand même un peu ça. C'est-à-dire qu'on est à la fois. Il y a des séparations sur plusieurs modes, mais en même temps, on sent bien qu'on est amené aussi à jouer le jeu.
C'est clair. De toute façon, les trois exemples qu'on a donnés, c'est dans le travail. La problématique du prêt, la problématique du vol ou la problématique de la perte. On est obligé de jouer le jeu et surtout on a l'obligation de pas jouer avec le goy, quoi. Donc on a une obligation d'éthique. Je pense que ça vient du fait que la Torah a été donnée aux hommes et pas qu'aux juifs. On a une obligation d'éthique, clair et net.
Mais alors,
Un goy n'a pas le droit de faire Shabbat, c'est Chayav Mitan. Je crois que c'est Chayav Mitan, ça.
Oui, voilà, un goy n'a pas le droit de faire Shabbat, mais il peut respecter le Shabbat un autre jour que le Shabbat.
Sauf que c'est pas Shabbat, bon. Il peut respecter un jour que le Shabbat, je sais pas.
Non.
Pourquoi il veut pas? Moi, ça me dérogerait pas dans la mesure où c'est pas Shabbat, c'est ce qu'il veut, je dirais. C'est vrai, pas moi. C'est la lacha? C'est la lacha? Mais encore une fois, pour moi ça sort complètement. Là, ce qu'on parle ici, c'est vraiment d'éthique économique. C'est très différent les règles d'éthique économique et les règles religieuses. Là, tu glisses sur un terrain qui est très différent. Moi, je parle très précisément des règles d'éthique religieuse. Oui. C'est vrai, c'est exactement dans le sujet, et son employeur n'était pas juif, c'était un goy gamour, et ça pue sur ce fait que Bereshit, c'est vraiment le livre de la bonne conduite. Vous avez tout à fait raison, j'avais même pas pensé à le citer, c'est très vrai. Très bien, Yaakov Avinu, il s'est comporté de manière exemplaire. Même si son patron, ensuite, s'est super mal comporté avec lui, jusqu'au dernier moment, il a été parfait, il a été droit. Donc lui-même n'a pas essayé de tricher. Même si, effectivement, son voleur de beau-père et de patron a essayé de se comporter avec lui de mauvaise manière. Bon, lui, il avait la bracha, il avait de la chance, il avait une très grande bracha. Et son beau-père en a été jaloux, et à aucun moment donné, c'est intéressant, on aurait d'ailleurs pu penser que Yaakov se comporte selon les lois, c'est-à-dire de voler son beau-père, parce qu'il aurait pu. Son beau-père était un voleur, hein, c'était un voleur patenté, comme on dit, avec tous les diplômes qu'il fallait, il s'est quand même bien comporté. Bon, parce que peut-être qu'effectivement, on pourrait, c'est une très jolie idée, franchement. J'ai noté que je n'ai pas pensé à Yaakov. Il faudrait trouver avec Yitzhak aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut présenter comme droiture. Ouais, je pense. Abraham, Yitzhak et Yaakov. Ils n'étaient pas dans la même lignée, si tu préfères. Un, c'était horizontal, l'autre, c'est vertical. Ouais. C'est les Avot, on va dire. Les Avot, c'est ceux qui ont... Ah, est-ce que c'était des Juifs? Ouais. Je sais pas quoi te répondre par rapport à ça. Tu verras, ils avaient fait la Mila. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est juste. Enfin, moi, j'aurais tendance à dire que si on l'a introduit dans les Avot, alors... Pour moi, il fait partie de la lignée des hommes, tous ces engendrements, tous ces hommes qui vont amener directement vers la Torah. C'est ce que je veux dire. C'est Yaakov Avinu, je veux dire. C'est de lui d'ailleurs que descend les 12 tribus et compagnie, quoi. Donc, moi, je pensais que c'était un argument fort. Je veux dire, c'est quand même, je veux dire, c'est de lui qui descend et que, directement, et qu'on est là d'ailleurs. Et alors, ouais. Ah non, mais à l'époque, c'était pas un problème. Il n'y a que depuis le 11e siècle qu'on a le droit de prendre deux femmes avant. Quel 12e? Ah, deux sœurs. Ah, pardon. Ouais. Bon, d'accord, deux sœurs, c'est déjà. Ouais. Tu as raison. Ouais, c'est vrai que c'est interdit. Mais il n'y a pas encore la Torah à l'époque. Il avait le droit. Non, je ne peux pas dire ça. Bon, il y avait une forme de Torah qui était présente à l'époque, peut-être qu'elle était différente. Parce que là, tu pourrais très bien me dire, alors, Adam et Chava et leurs enfants, c'était consanguin, tu peux aussi dire tout ça. C'est une question, mais c'est une question difficile. Tu vois ce que je veux dire? Il faudrait trouver pour Yaakov. Yaakov, c'est le parfait berger. C'est aussi pareil, hein. Son beau-père, il lui donnait les bêtes, lui devait les élever, son beau-père ne perdait rien. Quoi. C'est exactement le quoi qu'on a eu tout à l'heure, le... de Barzel. Je ne sais pas si on appelle ça un contrat béton, ça me semble intéressant, ça montre à quel point il y a un décalage culturel entre l'époque et maintenant. On parle de la même chose, mais pas avec les mêmes mots. C'est une très belle idée.